Terre, le 18-20.
Bonsoir, les Italiens l'appellent le budget du peuple, qualifié de populiste et dangereux par ses adversaires, d'ambitieux et salutaire pour ses partisans. Il est jugé hors des clous par Bruxelles, à tel point que cet après-midi, c'est au Parlement européen, Pierre Moscovici a officialisé ce que tout le monde pressentait. La Commission a rejeté ce budget, donnant 3 semaines au gouvernement italien pour lui présenter une nouvelle copie plus conforme aux règles européennes. Réponse immédiate du gouvernement italien, on ne changera rien. Bras de fer engagé donc avec une question simple, est-il raisonnable de relancer la dépense publique, d'aggraver le déficit budgétaire tout en respectant la règle des 3%, on le verra, ceci dans un pays où la dette dépasse les 2300 milliards d'euros. Les Italiens font le pari que oui, s'ils réussissent sans entraîner de crise financière, ce sera un sérieux pied de nez aux politiques de rigueur. S'ils échouent, nul doute que les partisans de l'austérité donneront de la voix, surtout ceux qui sont tentés de séparer les pays considérés comme les cigales de l'Europe. Autre question, faut-il craindre l'existence de la zone euro ? Une zone euro que les Italiens n'ont pas l'intention de quitter, si on en croit leurs dirigeants. C'est le téléphone sonne Europe sur France Inter, en direct du Parlement européen.
Le téléphone sonne Europe. Stéphane Leneuf.
Et au 01 45 24 7000, on retrouve Serge qui nous appelle de Bandol. Bonsoir Serge, on vous écoute.
Bonsoir France Inter, bon merci pour toutes vos émissions qui sont super intéressantes. Voilà, la question que je me dis, sommes-nous toujours en démocratie ? Nous avons, bon, alors bien que je sois contre le gouvernement italien actuel, c'est un gouvernement qui a été élu démocratiquement par son peuple, qui a choisi une certaine politique, et je me pose la question, comment des technocrates non élus peuvent-ils refuser ce que, disons, un gouvernement légitimement élu propose ? C'est la question que je pose.
Merci Serge, vous nous appelez de Bandol. Pour répondre à vos questions, 3 invités autour de la table ce soir. Stéphane Gerold, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député du Parti Populaire Européen Allemagne. Jean Arthus, bonsoir.
Bonsoir.
Député du groupe Alliance des Démocrates et Libéraux pour l'Europe, France. Et Ernest Urtasun du groupe des Verts, député d'Espagne. Le problème démocratique posé par Serge est bien réel. Jean Arthus. On ne peut pas contester effectivement que les Italiens, ce gouvernement est démocratique et donc on ne peut pas vraiment contester qu'il ne soit pas d'accord avec la Commission européenne.
Mais nous sommes convenus de créer une monnaie unique parce qu'à un moment donné, nous avions un marché unique. Mais comme il y avait autant de monnaies que de pays constituant ce marché unique, l'instabilité des parités monétaires mettait en péril la croissance à l'intérieur de ce marché unique. Il y avait des dévaluations compétitives qui brisaient la croissance et stimulaient le chômage. Donc pour en sortir, on a imaginé de partager cette souveraineté qu'est la monnaie unique. Tous la même monnaie. Mais on a posé des règles. Ce n'était pas une obligation de venir dans la zone euro. On a dit que ceux des pays qui souhaitaient se doter de cette monnaie unique pour faciliter les échanges, pour éviter l'instabilité monétaire, pour créer une véritable solidarité financière, devaient s'engager à respecter un pacte de stabilité. C'est-à-dire qu'on s'interdisait des déficits supérieurs à 3% du PIB. On s'interdisait des endettements supérieurs à 60% du PIB. On s'obligeait à avoir une stabilité des prix. C'était pas une obligation. Quand on entre dans un
Jean
club...
Jean, ce n'est pas une obligation, mais aucun pays ne le respecte aujourd'hui, pratiquement.
Si, pratiquement tous les pays de la zone euro sont dans les clous, en dehors de quelques-uns, notamment la Grèce, qui a complètement dérivé.
Les Italiens, pour l'instant, sont toujours dans les clous de la zone euro.
Oui, sauf que leur dette est supérieure à 60%, elle est à 130%, ce qui est une dette très très lourde, et que l'Italie a déjà connu des moments difficiles, des déficits excessifs, et que, pour en sortir, elle avait pris des engagements. Il y a aujourd'hui une rupture par rapport à ces engagements. Donc il n'y a pas de remise en cause du processus. Les Italiens disent, voilà, on va faire un pari du redressement. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que si ça ne marche pas, c'est pas eux qui paieront. Ce sont les autres pays de la zone euro. Parce qu'on a une telle solidarité que celui qui commet une bévue, on l'a vu avec la Grèce, c'est pas lui qui va passer à la caisse au dernier moment, ce sont les autres membres du club. Donc les autres membres du club ont bien le droit et ont même l'obligation de dire attention, telle attitude est de nature à mettre tout le monde en difficulté.
Ernest Urtasun, Serge pose le problème comme démocratique, effectivement, face à la Commission qui est jugée par Serge, par aussi beaucoup d'Italiens, comme des technocrates qui décident
Moi, je ne jugerai pas la Commission comme cela. C'est-à-dire, si on a une monnaie unie, il nous faut des institutions et des normes communes. Ça, c'est clair. Est-ce que la zone euro a besoin de réformes institutionnelles et démocratiques? Oui, absolument. Il faut donner plus de poids au Parlement européen. Il faut des normes qui marchent. Moi, je suis absolument favorable à une révision des normes parce que dans les dernières années, on a vu qu'elles ne marchaient plus. Et je suis aussi favorable à faire des réformes en profondeur de la zone euro pour créer une capacité budgétaire, une garantie des dépôts européennes, etc., etc., des réformes qui sont indispensables pour que la zone euro marche. Alors maintenant, comment arriver à cela? Il y a deux façons de le faire. Il y a la façon que le gouvernement italien a pris, que moi, je trouve, ils ont complètement tort. Parce que la voie confrontative avec les institutions européennes, en ce moment-là, ça mène nulle part. Surtout parce qu'on voit que maintenant, par exemple, le gouvernement portugais et espagnol ont pris la décision, bien sûr, de vouloir changer la dynamique européenne, la politique économique européenne, en essayant de finir avec l'austérité, en faisant une politique qui combine la dépense sociale avec une augmentation de recettes. C'est ce que l'Espagne et le Portugal sont en train de faire. Ils ont obtenu, je parle de mon pays, l'Espagne, par exemple, 6 milliards de dépenses additionnelles de la part de la Commission européenne en négociant. Alors, les Italiens peuvent faire deux choses. Ils peuvent s'ajouter à cette nouvelle dynamique, donc c'est-à-dire travailler avec d'autres pays pour obtenir une politique économique différente et des réformes au niveau de la zone euro. Moi, c'est la stratégie que je voudrais que le gouvernement italien suive, avec nous, avec le gouvernement espagnol et le Portugal, avec d'autres gouvernements, ou bien aller dans une voie unilatérale confrontative qu'à la fin, la seule chose, le seul résultat, c'est que cette voie, de la part des Italiens, bloque toute réforme au niveau de la zone euro, au niveau européen. Et je pense que c'est absolument... ils ont complètement tort de faire cela.
Stéphane Garrel, en même temps, le dialogue n'est pas fermé, puisque cet après-midi, Pierre Moscovici a dit que, de toute manière, la porte était toujours ouverte. Les Italiens disent qu'ils ne veulent pas quitter la zone euro. La porte est aussi ouverte aux discussions. Donc là, tout le monde a 3 semaines pour discuter. Donc finalement, qu'est-ce qui risque de se passer pendant ces 3 semaines? On va continuer de parler, on va continuer de se parler, évidemment.
Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec les commentaires des collègues ici. Il faut peut-être encore rajouter que nous sommes trois élus députés ici à la table. Donc, je ne vois pas ce déficit démocrate qui a été élevé par Serge. Je pense qu'il faut à tout prix empêcher une contagion bancaire à toute l'Europe si jamais un jour l'Italie devient insolvable. Et la crise financière de 2008 a mis en évidence qu'en Europe, il est d'une importance fondamentale de veiller ensemble, comme l'a dit Monsieur Arthuis, sur le bon fonctionnement de l'union économique et financière. Je pense maintenant, on ne va pas laisser tomber les Italiens. Et il faut être clair sur un fait. En critiquant le budget italien pour 2019, l'Union européenne, la Commission, ne cherchons rien à instrumentaliser le budget italien afin de critiquer le gouvernement italien. Au contraire, il ne s'agit de rien d'autre que de la sécurité et de la fiabilité du système monétaire européen, pur et net. Et cela affecte, c'était déjà dit ici, et cela affecte tous les citoyens européens de la même manière. Les Italiens, les Français, les Allemands, les Polonais. Donc, on ne va pas laisser tomber les Italiens. On n'a pas laissé tomber la Grèce non plus. Donc, maintenant, il y aura des négociations qui sont nécessaires. Mais il faut, à l'autre côté, dire le calcul peut-être de la part du gouvernement italien qu'on est too big to fail, ne doit pas être récompensé.
On retourne au standard au 01 45 24 7000. Eric qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonsoir Eric, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Moi j'avais une question. Je voulais savoir en quoi les choix économiques de l'Italie posent problème à l'Europe. Mais je voulais quand même aussi revenir sur les réponses de vos invités par rapport à la question de Serge. C'est que moi, en tant que citoyen lambda, je ne sais pas si je partage les idées de Serge, mais ce n'est pas tellement important, par rapport à l'idée européenne, ce qu'il est en train de se passer, le déficit démocratique, vos invités ont répondu à leur façon, c'est-à-dire c'est des réponses de députés, mais pour le citoyen lambda européen, c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre qu'on nous envoie voter nationalement pour qu'ensuite les choix qu'on fait d'élire des gens, et je ne partage pas du tout les idées des gens qui sont élus en Italie, mais si demain je vais voter à des élections françaises et que je choisis un candidat, j'ai bien envie que ce candidat applique ce pourquoi j'ai voté pour lui, et pas uniquement qu'il applique des directives. Et si l'euro est un handicap à la démocratie, eh bien envisageons de sortir de cette monnaie, ou alors la modifier pour qu'on puisse être en démocratie. C'est ça que vous comprenez pas, on n'est plus en démocratie, et vous trouvez que c'est normal parce qu'on respecte les critères de Maastricht. Je pense qu'il y a un gros décalage dans la compréhension de ce qu'est le peuple et la volonté souveraine.
Merci Eric. Le vrai décalage démocratique, il existe, Jean Arthuis ? C'est une question qui est extrêmement importante. Dans quelques mois, on va voter pour les européennes.
C'est un vrai sujet que la légitimité démocratique. Mais ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que les pays qui ont choisi d'avoir la même monnaie se sont engagés à respecter un code de bonne conduite, une sorte de...
Oui, mais c'est le chien qui se mord la queue. Si un nouveau gouvernement ne veut plus respecter ce code de bonne conduite...
Oui, mais alors, il y a un moment où chaque nouveau gouvernement doit dire s'il entend rester dans l'Europe ou pas.
Donc on
et rester dans la zone euro.
Ce que dit Eric, c'est que est-ce que va se poser le problème d'une sortie de l'Italie de la zone euro?
Ce que je note, c'est que le gouvernement italien ne souhaite pas sortir de la zone euro.
Donc on est en pleine contradiction.
Il ne souhaite pas, et on est en contradiction. Parce que si on souhaite rester dans la zone euro, si l'Italie n'était pas dans la zone euro, eh bien, à mon avis, elle aurait quelques difficultés pour aller sur les marchés financiers, emprunter pour financer son déficit. Le fait d'être dans la zone euro fait que les prêteurs se disent on ne laissera jamais tomber un débiteur en difficulté. On l'a vu avec la Grèce, on pourrait le voir avec l'Italie. Par conséquent, on n'appliquera pas le taux d'intérêt correspondant au risque effectif. La zone euro est en quelque sorte un système d'assurance mutuelle. Donc je préférerais que nos gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, peu importe, lorsqu'ils s'engagent dans une élection nationale, commence par dire très clairement devant leur opinion publique nationale ce qu'il en est de leur souveraineté monétaire qui a été partagée démocratiquement. Il y a eu un référendum pour ratifier le traité de Maastricht. Donc tout ça a été intégré. On ne peut pas dire, ben voilà, on va faire ce qu'on veut, c'est pas grave, parce que si on échoue, ce sont les partenaires qui paieront. Ça n'est pas convenable. Donc je souhaiterais que le débat politique de la part des chefs d'État, de ceux qui sont candidats aux élections, se fasse sur une exigence de vérité et qu'on ne raconte pas des salades.
Ernest Sortasoun.
Alors moi je pense qu'il y a deux dimensions. La première chose, c'est est-ce que si on a une monnaie unique, il nous faut quand même des institutions et des normes que toute l'Union européenne doit respecter? Absolument, bien sûr, on ne peut pas avoir une monnaie unique et aucune norme, aucune institution, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un déficit démocratique dans le fonctionnement de la zone euro? Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des réformes en place. Et on s'est plaint à plusieurs reprises que, par exemple, cette maison, les parlementaires européens, que nous sommes élus par nos citoyens, nous n'avons pas les pleins pouvoirs pour décider beaucoup de choses. Et il faut renforcer cette maison. Ça serait une des solutions.
Mais et après, l'instauration d'un gouvernement de la zone euro qui est une arlésienne serait aussi une bonne solution.
Indispensable, avec un budget qui est contrôlé par le Parlement, etc., etc.
Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de la Commission?
Et après, non, mais la Commission peut devenir ce véritable gouvernement européen qui peut contrôler un budget qui aille beaucoup plus au-delà de 1% du PIB qu'on a aujourd'hui. Donc il faut faire toutes ces réformes. Et après, il faut aussi qu'on discute sur les normes budgétaires européennes. Et là, il y a un vrai débat, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que le limite de 3% est quelque chose de raisonnable? Pour aller au budget italien, est-ce que 2,4% aujourd'hui de déficit...
Les Italiens sont toujours dans les clous de Maastricht. Ils sont à 2,4. La France est à 2,8.
Sauf l'endettement.
D'accord pour l'endettement, on va le voir. C'est peut-être un sujet qui est lié. 2,8 pour la France, 2,4 pour l'Italie. On refuse le budget italien, on refuse pas le budget français.
Et 1,8 pour l'Espagne. Donc, c'est pas vraiment un problème de chiffres. Moi, ma critique au gouvernement italien, c'est le choix de la méthode choisie pour arriver là. Et après, sur les normes budgétaires de fameux 3%, personne n'a respecté cette limite dans les dernières années. Même la Commission européenne a dû faire une communication de flexibilité sur l'application de ces normes parce qu'elles ne marchaient plus.
Il faut
un certain moment ouvrir le débat sur les normes budgétaires. Je suis absolument d'accord sur cela.
Jean Arthuis et ensuite Stéphane Garand.
Alors d'abord, pour ce qui est de la France, 2,8, c'est la conséquence d'un phénomène stupide. Il y a eu un crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été créé il y a quelques années, qui reportait sur l'année suivante le poids de cette dépense. Le gouvernement français vient de proposer au Parlement d'alléger immédiatement les charges sociales que ce crédit d'impôt était supposé alléger. Donc l'année 2019 va prendre à la fois le remboursement de la charge 2018 et l'allègement de 2019. Mais ceci est un phénomène momentané et ça pèse 0,5% du PIB. Et j'ajouterais que l'endettement de la France tangente les 100%,
mais
très inférieur au déficit italien. Maintenant, pour ce qui est de la zone euro, je crois qu'il y a vraiment urgence à consolider le gouvernement de la zone euro. On a une monnaie unique, une banque centrale européenne, mais on n'a pas de politique économique unique. On a une addition de politique nationale. Il nous faut un gouvernement économique pour faire ce que font très bien les Américains, le policy mix, où on met en synergie, en harmonie, la politique économique et la politique monétaire.
Stéphane Garrault.
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais revenir là-dessus plus tard. D'abord, je voudrais encore argumenter et répondre à la question d'Eric. Partiellement, c'était déjà dit. Quand nous avons introduit la monnaie unique, pacte de stabilité, pacte budgétaire, les gouvernements dans le Conseil ont accordé et également le Parlement européen a accordé. Donc, je ne vois pas ce déficit démocratique dont parle Eric, parce que les gouvernements nationaux, à ce temps-là, étaient élus comme les députés européens étaient élus par les citoyens. Maintenant, ça peut arriver qu'un gouvernement change, qu'il y a une nouvelle direction, on ne critique pas cela, mais il faut quand même que les pactes, que les accords que nous avons trouvés à un certain temps soient respectés. Sinon, les autres pays n'ont rien, ni la Commission, pratiquement aucun citoyen européen peut compter avec un certain comportement d'un certain gouvernement, d'un certain pays membre. Deuxièmement, je voudrais revenir sur le commentaire de M. Arthuis. Je suis tout à fait d'accord. J'ai travaillé pendant les années 90, j'ai travaillé ici pendant quelques temps au Parlement européen, et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on supranationalise une monnaie et on ne supranationalise pas les instruments qui sont mis en œuvre pour veiller sur cette monnaie-là. Voilà. Mm-hmm. On ne peut pas sauvegarder, et là je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas sauvegarder une monnaie unique qui est supranationalisée avec des mesures nationales.
Jean Arthuis peut-être ?
Mais je suis...
Ça signifie...
Lorsqu'on a créé la monnaie unique, on s'est interrogé. Certains étaient désireux d'avoir un gouvernement économique, financier et budgétaire. À l'époque, l'Allemagne était très opposée parce qu'elle redoutait que la planche à billets latine fonctionne intensément. Alors, on a dû inventer un règlement de copropriété qu'on a appelé le pacte de stabilité et de croissance. Mais moi, j'étais persuadé à l'époque que ceci était un préalable et que très rapidement, on irait vers un gouvernement économique, financier, qu'on allait changer les traités. Or, en fait, rien n'a changé. Et la gouvernance de la zone euro a été assez calamiteuse, finalement. Il y a une espèce de gouvernement qui est constitué par les ministres des Finances. Or, les ministres des Finances ont eu une espèce de complaisance mutuelle. Et c'est comme ça qu'on a laissé la Grèce se surendetter et qu'on a connu cette crise vraiment extrêmement calamiteuse et très lourde. Donc nous avions une responsabilité collective dans tout ça. Je crois qu'il est urgent de tirer les conséquences de ces crises que nous avons connues, crises à répétition, qu'on arrête de se raconter des histoires dès lors qu'on a choisi d'être dans un club de solidarité, qu'on a des conventions, des engagements qui ont été pris. On ne peut pas dire d'un côté on va prendre le bénéfice de la zone euro parce que c'est quand même bien commode d'avoir une monnaie unique, parce que sur les marchés financiers ça coûte moins cher d'emprunter, et puis de l'autre on va continuer à faire la politique que l'on veut parce qu'au plan national on a pris cette décision, et si ça ne marche pas, c'est les autres qui paieront à notre place. Ça, ce n'est pas possible.
Ernest Sourtasun, et on ira au standard où Michel nous
attend. Alors, moi, je pense qu'on est probablement d'accord qu'il faut des réformes sur la zone euro. Mais alors, moi, j'ai une question, parce que la déclaration de Meissenberg, qui est une déclaration qui a été signée par les gouvernements français et allemands, que, bon, c'était plutôt modeste, mais il y avait quand même des réformes qui étaient intéressantes. Nous, en tant que Verts, on a on a quand même soutenu le document.
C'est bien.
Mais moi, ce qui m'inquiète, et je pose la question à mes deux collègues, parce qu'ils sont des représentants des deux gouvernements, bon, au moins des deux parties au gouvernement, où est-ce qu'elle est passée cette déclaration? Parce que moi, je la vois nulle part maintenant.
Quelle est cette déclaration? Ernest Urtasun, on rappelle ce que c'est que cette déclaration?
Cette déclaration, c'est une déclaration signée par la France et l'Allemagne, qui visait une certaine, des réformes sur la zone euro qui sont indispensables. Ça a créé un backstop de l'union bancaire, ça a créé une petite capacité budgétaire pour l'Union européenne, etc., etc. Ça allait quand même... Bon, c'était pour moi insuffisant, mais ça allait dans la bonne direction. Mais moi, je regarde en ce moment le Conseil européen, je ne la vois plus, la déclaration. C'est ce qui m'inquiète aujourd'hui.
Jean-Arthur, rapidement, et Stéphane Guérold, et on ira au standard.
On a un vrai sujet de fonctionnement des institutions européennes. On ne peut pas continuer comme ça.
Finalement, on est tous d'accord avec nos auditeurs qui considèrent qu'il y a un vrai problème de déficit démocratique. Hein, ça, là-dessus,
d'une certaine mesure, oui, on peut le dire, il n'y a pas de doute.
Stéphane Guérold, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord.
Il y a toujours des doutes de ma part. Je pense...
Stéphane Guérold, s'il y avait aujourd'hui un vrai gouvernement de la zone euro, il y aurait un ministre italien dans ce gouvernement.
Absolument.
Donc, le problème démocratique ne se poserait plus.
Absolument. Mais nous l'avons déjà. Monsieur Moscovici est le commissaire responsable.
Oui, mais les auditeurs vont vous dire que la Commission n'est pas un représentant légal élu, etc.
Elle est gardienne des traités, ce sont des
hauts fonctionnaires, ce sont des gens désignés par leurs États, mais ce ne sont pas des gens élus.
Absolument, non, je suis tout à fait d'accord. Mais il n'est pas vrai que pratiquement les perspectives ne sont pas partagées par des... Il y a des lunettes nationales qui sont quand même présentes. Au niveau de la Commission, au niveau des institutions, prenez M. Draghi, qui est le président de l'ECB, BCE, excusez-moi.
Banque Centrale Européenne.
Voilà. Je pense que quand même, ces perspectives différentes sont présentes au niveau de toutes les institutions.
Très vite, M. Arthuet, on va au standard.
L'Europe reste quand même trop largement une addition d'égoïsmes nationaux. Et ça, il va falloir en sortir. Et donc, le débat qui va précéder les élections européenne devrait être le moment fort pour qu'on s'en explique avec les citoyens européens. De quelle Europe voulons-nous parler? De quelle solidarité? Enfin, moi, je note quand même que les Italiens disent on va rester dans la zone euro parce que c'est bien commode, mais on va s'affranchir des règles. Et ça, c'est pas possible. Donc, il y a certainement nécessité de modifier les traités, de mettre en place une vraie gouvernance, sans doute un budget de la zone euro, parce qu'on a besoin de ce socle. Quand on est membre de la zone euro, c'est autre chose que d'être parmi les 28. Quand il faut mettre la main à la poche pour venir en aide à la Grèce, ou même momentanément à l'Italie, comme on l'a fait dans le passé, c'est les membres de la zone euro qui mettent la main à la poche, c'est pas les autres.
Citoyens européens sont nombreux au standard ce soir sur France Inter. Michel, vous nous appelez de Savoie, on vous écoute. Bonsoir Michel.
Bonsoir. On a appris il n'y a pas longtemps que le Portugal s'en était bien finalement sorti sans respecter complètement les règles de l'Union européenne. Alors je voudrais qu'on m'explique quelle est la différence de situation entre le Portugal et l'Italie, s'il vous plaît.
Merci Michel et Ernest Urtasun, on en parlait tout à l'heure.
Bon, c'est tout d'abord une question de méthode. Le gouvernement portugais a décidé de négocier. Il a expliqué qu'il voulait balancer son budget en faisant une politique de recettes et de dépenses. Ils ont augmenté les dépenses sociales d'une façon assez importante.
Veulent faire les Italiens.
Mais avec une politique de recettes importante et avec une négociation, ils ont obtenu plus de marge de Bruxelles. C'est exactement ce que le gouvernement espagnol a fait. Nous avions un objectif de déficit d'1,3. On a fait un budget qui est à 1,8 parce qu'on a négocié 6 milliards d'euros supplémentaires de dépenses. Parce que je pense qu'à un certain moment, on commence à voir que les normes qu'on s'était dotées et l'austérité extrêmement stricte qui avait été menée par Bruxelles ne marchait plus. Il y a un certain marge de négociation en ce moment. Et c'est pour cela que je pense que le gouvernement espagnol et italien vont faire et font une politique différente en négociant avec Bruxelles. Et moi, j'aimerais que le gouvernement italien fasse la même chose. Mais le problème, c'est que le gouvernement italien pense plus à sa propagande interne, à dire « je suis en train de me battre avec Bruxelles », etc., qu'à vraiment provoquer un changement. Mais c'est toute la différence. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut faire une politique économique différente en négociant avec Bruxelles, en équilibrant les recettes qui sont importantes avec une dépense sociale très, très forte.
Jean-Arthur, finalement, la Commission européenne laisse la porte ouverte aux discussions, mais elle est dans une position quand même un petit peu compliquée, parce que rester ferme, c'est un petit peu donner, si on peut, pour les élections européennes, du grain à moudre aux populistes en disant non, on reste ferme sur la doctrine, mais finalement, si elle ouvre un petit peu la porte, elle risque d'être en position de faiblesse. Quelle est la marge de manœuvre à la fois de la Commission européenne et du gouvernement italien?
On a souvent parlé du père Fouettard
bruxellois, le père Fouettard...
C'est terminé, ça ou ça continue ?
Le père Fouettard n'a jamais fouetté. Bon, d'abord, il n'a jamais fouetté.
Il n'y a jamais eu de sanction.
Le conseil est incapable de prendre des décisions de sanction.
Avec la Troïka, oui.
Le conseil, c'est-à-dire les chefs d'État de gouvernement.
Les chefs d'État et de gouvernement. Bon, et probablement, le gouvernement aurait bien du mal lui-même à décider de... Ce qu'il faut, c'est parler. C'est mettre sur la table les éléments budgétaires de l'Italie.
Ce qu'ont fait les Portugais avec la Commission, mais ce que ne fait pas les Italiens.
Ce qu'avait prévu quand même le traité qu'on a appliqué à partir de 2013, qu'on appelait le Tupac, c'était quand même qu'il y ait une autorité indépendante pour porter une appréciation sur les évaluations budgétaires. Parce que c'est facile de sous-estimer certaines dépenses. Par exemple, le revenu citoyen, qui pourrait être identique à ce qu'on avait imaginé comme revenu universel, là, il peut y avoir des aléas considérables dans le niveau effectif de la dépense. Donc on a besoin d'une appréciation sérieuse pour que les chiffres mis sur la table soient des chiffres fidèles et qu'il y ait une discussion qui s'engage entre les partenaires européens, que les ministres des Finances des autres pays puissent convaincre leurs collègues italiens et que les Italiens renoncent à faire du combat qu'ils mèneraient contre Bruxelles, c'est-à-dire contre eux-mêmes en définitive, le signe de leur puissance politique. Je trouve que ce jeu-là est un jeu complètement démagogique qui risque de mettre tout le monde en difficulté.
Les discussions risquent d'être compliquées parce qu'on rentre dans une campagne électorale et les Italiens ont tout intérêt, notamment pour de pures raisons de politique intérieure, à faire monter la sauce,
c'est que si on n'avait pas l'euro, les États qui disent, voilà, c'est pas normal, on peut pas faire de déficit. Mais qu'est-ce que c'est que la gestion des finances publiques? La gestion des finances publiques, c'est d'équilibrer les comptes publics. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas l'euro, on pourrait pas faire autant de déficit. C'est parce qu'il y a l'euro qu'on peut se permettre, dans certains cas, d'avoir autant de déficit. Donc, n'inversons pas les termes du problème. On est en train de faire le procès de l'euro, alors que c'est lui qui nous permet plus facilement de faire du déficit et de franchir les moments un peu difficiles et de réguler les politiques pour que ça réponde à peu près aux attentes des uns et des autres. Donc, ce procès-là est un procès stupide et indigne.
On retourne au standard, au 01 45 24 7000. Rémi, vous nous appelez vous voulez parler des sanctions contre l'Allemagne qui n'ont pas été prises. Hein. Rémi, bonsoir.
Bonsoir. Oui, j'entends M. Arthuis qui parle beaucoup effectivement du traitement de copropriété entre les pays européens. Effectivement, donc les traités donnent des critères sur les budgets à la fois pour les déficits, mais aussi pour les excédents. On a beaucoup parlé de l'Italie, de la Grèce, mais là j'ai un article du Monde sous les yeux. L'Allemagne devrait dégager 300 milliards d'excédents pour cette année, c'est quasiment 8% du PIB, c'est encore plus important l'année dernière. Donc j'aimerais savoir s'il existe de bonnes raisons de ne pas respecter le pacte de stabilité.
Merci Rémi. Stéphane Garol vous répond.
La question tout d'abord, est-ce que ça fait partie du pacte de stabilité? Je dirais non. Il est vrai que l'Allemagne bénéficie pour le moment d'une monnaie relativement faible par rapport au pouvoir relatif de son économie. Et cela mène à une situation dans laquelle les prix de ces produits sont bas, et peut-être trop bas. Mais il faut avouer au même temps que ça ne s'applique pas seulement à l'Allemagne, mais apparemment à d'autres pays de la zone euro. Pour le moment, un surplus dans la balance des opérations courantes n'est pas prévu étroitement, je dirais, mais il est quand même juste que l'Allemagne a génère des surplus qui viennent de cette monnaie faible. Maintenant, l'Allemagne, comme d'autres pays aussi, font partie du mécanisme de stabilité européenne, ce mécanisme européen de stabilité. donc, il alimente ces pays-là, le MES, et je pense que ça c'est très bon, parce que sans le MES, on aurait eu des grands problèmes par rapport au sauvetage de la Grèce. Donc il me faut dans une société, dans un club, des joueurs qui sont parfois faibles et forts, et ou vice-versa, et pour soutenir le succès de ce club.
Alors on a compris que l'Italie, les pays du Sud étaient un peu les maillons faibles de l'équipe européenne, si on vous suit. Moi je voulais vous poser une question très simple. La crainte, c'est la propagation, l'extension à d'autres pays de cette crise actuellement. Est-ce qu'on est dans le cas similaire à la Grèce il y a quelques années, en 2015?
Il y a des risques de contagion qu'il faut prévenir incontestablement. Le cas de la Grèce est un cas un peu différent. Au fond, la Grèce est, car on a beaucoup critiqué la Grèce pour ses déficits, mais quand on s'est demandé comment il se faisait que la Grèce soit à ce point endettée, on s'est demandé quels avaient été les créanciers suffisamment stupides pour lui prêter autant d'argent. Et les créanciers.
On a fermé les yeux à un moment donné sur
ces créanciers. Et les créanciers n'étaient pas très loin de la Grèce. Il y avait des Allemands et il y avait des Français.
Beaucoup de banques françaises, beaucoup de banques allemandes.
Et quelques autres. Donc, qui est-ce qui exportait vers la Grèce pour aménager les stades olympiques, pour aménager un métro à Athènes, à Thessalonique, et des systèmes d'arc? C'était les autres Européens. Car il faut être bien conscient que les excédents des uns financent les déficits des autres. Que l'excédent ne peut pas être le modèle que tous les pays pourraient poursuivre, parce qu'il n'y a des excédents ici que parce que d'autres sont en déficit. Et c'est là que la solidarité doit jouer. Donc, ce qui s'est passé avec la Grèce, c'est manifestement un dysfonctionnement de la gouvernance de la zone euro.
Ernest Ortassoun, il y a des risques de contagion aujourd'hui, comme il pouvait y en avoir avec la Grèce il y a quelques années, il y a 5 ans.
Pour moi, le risque le plus grand de la zone euro, ce n'est pas l'Italie. C'est-à-dire, avec un déficit de 2,4, même si la dette est élevée, l'Italie ne sera pas expulsée des marchés financiers, pourra continuer à se financer dans le marché financier. Ce n'est pas le cas de la Grèce il y a quelques années. Donc, pour moi, là, vraiment, il n'y a pas un risque de contagion.
Surtout si elle reste dans la zone euro.
Et de disruption ou de sortie de la zone euro, le risque n'est pas là. Moi, le risque pour la zone euro, c'est le manque de réformes, dans deux sens. Le manque des réformes financières. Les institutions financières européennes ont encore des balances, on dit des balances en français, hein, des balances qui sont extrêmement déséquilibrées, et il y a des réformes à faire qu'on n'a pas fait. Et puis, les réformes institutionnelles que la zone euro a besoin de faire. Si ces deux réformes-là ne se font pas dans les prochaines années, on sera très mal à l'aise lorsque la prochaine crise viendra. Je suis persuadé de cela. Et là, je vois beaucoup plus de risques qu'un déficit de 2,4% pour la troisième économie de la zone euro. Franchement, moi je pense que là, bon, on aura des discussions politiques. Bruxelles peut-être ouvrira une procédure de déficit excessif, mais on ne sera pas dans la crise que la Grèce a provoquée il y a quelques années.
On retourne au standard avec Eric qui nous appelle de Bayonne. Bonsoir Eric, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tous et à vous tous invités. Moi, ma question, c'est il me semble qu'il y a aujourd'hui un paradoxe énorme entre, d'une part, les règles du traité de Maastricht, entre autres, sur le respect des déficits excessifs, qui pour moi est un anachronisme à l'époque où l'on vit, et en même temps, le fait que finalement on va reprocher à des pays de procéder à une politique de relance, ce qui aurait déjà dû être fait il y a pas mal d'années. La plupart des pays européens ont contribué justement à sauver a sauvé beaucoup d'entreprises et de banques de la crise de 2008. Donc comment sortir de ce paradoxe schizophrénique quelque part?
Jean Arthuis.
S'il suffisait de faire du déficit pour connaître la prospérité, je pense que nombre de pays européens seraient dans une situation tout à fait enviable. Je pense qu'il y a partout l'exigence d'une gestion à peu près rigoureuse, où l'on veille à ce que les recettes correspondent à peu près aux dépenses. Je conçois que dans des moments particuliers, il faut donner un peu de flexibilité et accepter du déficit, mais ceci doit se faire dans la concertation et dans un climat de confiance, de bonne gouvernance mutuelle. Donc là, les conditions ne sont pas tout à fait réunies avec l'Italie. J'espère, parce que quand on écoute des Italiens, ils veulent rester dans la zone euro, contrairement à ce qu'ils ont pu dire avant les élections. Donc, et tous les gouvernements, là, j'ai vu un tas de candidats à des élections présidentielles, notamment dans mon pays, qui, à la veille des élections, étaient plutôt réservés à l'égard de l'Europe, et puis qui, une fois élus, disaient, au fond, l'Europe est notre chemin commun. Donc, je souhaiterais que nous ayons tous la sagesse de considérer qu'en effet, l'Europe nous permettra d'assumer notre destin et de le reprendre en main, ce destin. Ça suppose que nous travaillions en bonne intelligence, en concertation et en confiance, avec un minimum de règles. Les aventures individuelles peuvent être extrêmement préjudiciables pour les autres.
Des aventures individuelles, mais qui ont été poussées au pouvoir par les Italiens. Donc il faut tenir compte effectivement des contradictions aujourd'hui du gouvernement italien. Comment on sort de cette situation ? Ernest Urtasun.
Non, moi je pense que comme je disais avant, les choix de politique économique des dernières années n'a pas été correct. Je veux dire, on a fait une austérité excessive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas équilibrer les comptes publics. Ça veut dire qu'il faut tenir en compte des rythmes d'équilibre des comptes publics en tenant en compte le cycle économique. Et c'est vrai qu'en 2012-2013, on a consolidé excessivement les comptes publics alors qu'on avait besoin d'une dépense plus soutenue dans le temps. Et il y a eu une souffrance énorme sociale à cause de cela. Donc, si on prend ça et si on prend aussi le manque d'institutions au niveau de la zone euro capables de faire de l'investissement, capables de soutenir l'économie européenne, comme on disait avant, on vient d'une période catastrophique du point de vue de la gestion économique en Europe. Ça, il faut tenir compte de cela. Alors, je répète, bien sûr, maintenant, il y a beaucoup de gouvernements qui sont sous la pression de faire face à une crise sociale très très forte qui vient de toute cette période. Et il faut tenir compte de cela. Alors, comment faire face à cela? Moi, je suis tout à fait d'accord, je l'ai dit au début, ce n'est pas à travers des politiques unilatérales comme l'a fait le gouvernement italien qu'on doit régler ça, c'est à travers des négociations comme le gouvernement espagnol et portugais. Mais une chose que je veux dire qui est très claire, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'États membres, il y a une crise sociale énorme qui est la conséquence de beaucoup d'années d'austérité et qui aujourd'hui est au cœur, de mon point de vue, de la crise du projet européen. Ça, il faut quand même reconnaître ça.
Ce sera le mot de la fin. On arrive au terme de cette émission. Merci ici à toute l'équipe. L'équipe ici à Strasbourg, Jean-Christophe Pêcheur, Joseph Foster, Claire Duncombe, Jürgen Schmidt. Et à Paris, la réalisation avec Fabrice Legge, assisté d'Amélie Stadelmann. Dans quelques instants, il sera 20h sur France Inter.